Écoute sur VO Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man,
une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 15 mars 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons du duel en perspective entre Joe Biden et Donald Trump à la présidentielle de novembre. Le président sortant et son prédécesseur ont obtenu mardi, au terme de primaires, dans quatre États américains, la Géorgie, le Mississippi, Washington et Hawaï, assez de délégués pour s'assurer chacun l'investiture de leur parti. Pour analyser cette actualité, nous aurons Dennis Beaver, il est avocat basé en Californie. Nous espérons avoir Junior Bonpetit, qui est déjà là. Il est entrepreneur, il est militant républicain, il est le fondateur du mouvement Congolese for Trump. Et puis à New York, nous espérons avoir Mohamed Mbodj, qui est déjà aussi là, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Nous les retrouvons dans quelques instants pour engager la discussion. Voilà, donc nous parlons du duel en perspective entre Joe Biden et Donald Trump. Alors, mardi dernier, professeur Mohamed Mbodj, après les primaires dans les États de Géorgie, du Mississippi, de Washington et de Hawaï, Joe Biden et Donald Trump ont obtenu assez de délégués pour s'assurer chacun l'investiture de leur parti. Alors, professeur Mbodj, comment avez-vous accueilli ces résultats? On s'y attendait un peu, professeur Mbodj.
Pas un peu, beaucoup. En fait, le seul nuage, ou plutôt la seule interrogation, c'était jusqu'à quand Nikki Haley allait rester dans la course. Mais c'était gagné d'avance avec tous les témoignages et en particulier du côté républicain, tout le monde s'est aligné derrière Trump, alors que du côté démocrate, il n'y a vraiment pas de candidat, disons, crédible en face de Biden. Souvent, les gens ont même de la peine à nommer un autre candidat démocrate que Biden, alors que pour les républicains, au moins, on pouvait citer DeSantis, on pouvait citer Nikki Haley, etc.
Alors, Dennis Beaver, comme le dit le professeur Mbodj, on s'y attendait. Donald Trump, la dernière rivale de Donald Trump, Nikki Haley, s'était désistée. Côté démocrate, il n'y avait pas vraiment de concurrent de poids. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les partis républicains et démocrates de voir Biden et Trump s'imposer aussi facilement? Est-ce que ce n'est pas la preuve que ces partis manquent de cadre politique qualifié ou que la démocratie américaine est en panne, Dennis Beaver?
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est dommage qu'on ne voit personne sur scène qui se présente comme candidat, qui dit je veux le faire, je peux être président, je suis jeune, fort, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont au courant avec ce qui se passe. On est inquiet. Inquiet pour l'avenir de notre démocratie. Et c'est un vrai cauchemar.
Oui. Alors, Junior Bonpetit, j'imagine que vous, en tant que Trumpiste, vous avez savouré ce moment. Il y a quelques jours, sur ces mêmes antennes, vous appeliez déjà Nikki Haley à rendre les armes et vous appeliez à l'unité du parti républicain. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle?
Merci, Mamadou, pour l'invitation d'abord. Et l'accueil était bon et tout, nous avons, sans surprise, nous célébrons cette victoire. Comme j'ai dit, je réintègre encore notre volonté d'unité. Nous devons aligner derrière le choix du parti parce que c'est la démocratie qui a gagné, les peuples ont parlé, les jeunes ont parlé. et c'est le choix de Donald Trump. Nous devons être derrière Donald Trump pour organiser l'élection de novembre. En tant que, alors l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance de l'unité qui règne au sein du Parti républicain.
Oui, mais c'est une belle ambiance au sein du Parti républicain, Junior Bonpetit, mais le fait est que Donald Trump a pratiquement survolé la compétition. Il est quasiment le tout puissant maître du Parti républicain aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet si, par exemple, Donald Trump ne se présentait pas pour une raison ou une autre? Est-ce que il n'affaiblit pas le Parti républicain, en quelque sorte?
Bon, Donald Trump n'est pas le, comme vous le présentez là, c'est le peuple, hein. Ouais, c'est le choix du peuple, le peuple a fait un choix. Il y avait une gamme de beaucoup d'options de candidats chez nous à comparer des côté démocrates qui n'ont pas d'options, n'ont pas d'autres candidats. Nous avions eu DeSantis, nous avions Nikki Haley, nous avons eu beaucoup d'autres. Ils étaient là, mais le peuple a choisi Donald Trump. Ce n'est pas la domination, la suprématie de Donald Trump, c'est le peuple qui a fait le choix. Et Donald Trump incarne en fait l'espoir de républicains. Et nous avons l'alternance, nous avons l'alternative. Si aujourd'hui, pour une raison ou une autre, il y aura d'autres candidats, il y a DeSantis, il y a Nikki Haley et tant d'autres qui sont capables de battre n'importe quel candidat démocrate aux élections de novembre prochain.
On verra bien cela. Alors, professeur Mohamed Bodj, Donald Trump a donc un large soutien dans le camp républicain et le soutien d'une bonne partie d'Américains, mais il fait toujours face à un certain nombre de procédures devant les instances judiciaires. Est-ce que, tel que vous voyez à partir les choses, est-ce que vous pensez que Donald Trump aura des obstacles? Est-ce que ces procès peuvent constituer des obstacles pour la candidature annoncée de Donald Trump?
Il est certain que pour ses supporters, ces procès vont les galvaniser d'ailleurs plutôt que de les affaiblir. Mais pour les indépendants et pour les observateurs, il est certain que beaucoup de choses vont être déballées. Déjà, il y a eu des condamnations, il y a eu des condamnations qui sont confirmées en appel. Donc, on est un peu dans une sorte d'entonnoir où beaucoup de choses vont se consolider certainement. On ne sait pas trop si la mayonnaise, si je peux utiliser cette expression, va prendre et engluer Trump dans ses combats juridiques. Je ne le pense pas, mais c'est très détrimental de son côté d'avoir effectivement d'une part à se battre contre Biden et de l'autre côté à se battre contre donc des procès judiciaires aux civils, aux criminels sur le plan de l'insurrection du 6 janvier. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et il peut perdre beaucoup de voix lorsque beaucoup de choses vont être déballées, en particulier les cas qui sont autour de sa tentative de changer les résultats des élections. Ben, il est certain que si certains de ces procès vont être en cours, il risque d'avoir beaucoup de dégâts de son côté.
Denis Beaver, qu'est-ce que vous pensez de ces procès? Comme le disait le professeur Bodj, on a plutôt l'impression que ces procès dopent plutôt, encouragent, motivent davantage les républicains, les militants républicains à se ranger, à faire bloc derrière leur candidat.
Oui, le problème c'est que... Alors, les Allemands ont voté pour Hitler, hein? Et Trump vient de dire, ah oui, Hitler, il a fait beaucoup de bonnes choses pour l'Allemagne. Ah oui, certainement, oui. L'économie était fantastique. 30 millions de gens sont morts à cause d'Hitler. Trump dit, alors monsieur Poutine, alors venez, tu peux invier d'autres pays. C'est aussi OK avec moi. Les Allemands, encore une fois, ont voté pour Hitler et malheureusement, nous autres Américains, et tu sais, toute ma vie en Californie, hein, on n'est pas plus intelligents que les Allemands. On est vraiment bêtes. Et ça, c'est le problème. Hein.
Bon, on ne va pas aller jusque-là, Denis Beaver. On va dire que le jeu de la démocratie va se faire. Alors, Junior Bonpetit, vous avez dit déjà, une fois sur nos antennes, que vous faites confiance à la justice. Et donc, vous êtes confiant que l'ancien président Donald Trump va s'imposer malgré tous ces procès.
Exactement. Nous faisons confiance à notre justice et on commence à voir qu'un certain procès, on enlève certaines charges, d'accusations contre le président, l'ancien président Donald Trump. Et nous faisons confiance au processus. Mais comme je disais, ces processus ou ces accusations judiciaires ne peuvent pas empêcher le président Donald Trump de briguer à ce nouveau mandat ou à se porter candidat aux élections de novembre. Donc nous faisons confiance au processus judiciaire.
Alors, professeur Mbodj, on va analyser un peu les forces et les faiblesses des deux hommes qui pourraient donc s'affronter en novembre prochain. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses de Joe Biden, d'une part, et de Donald Trump, de l'autre part?
La force de Joe Biden, c'est bien entendu de jouer l'épouvantail Trump. Trump a été président et pour beaucoup d'Américains, c'était calamiteux. Et donc, il y a un côté sulfureux du personnage avec tous ses procès, d'abord. Et deuxièmement, du bon côté de Biden, l'économie se porte très bien. Nettement mieux d'ailleurs que sous Trump, malgré tout ce que l'on dit. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait problème. Et ensuite, les États-Unis ont retrouvé un certain prestige sur le plan international qu'ils avaient perdu en quelque sorte sous Trump. L'âge, maintenant, pour parler des côtés faibles, l'âge peut être un handicap parce que quand même, il ne représente pas Biden, les catégories sociales américaines les plus importantes à ce moment-ci. Et pour un homme de son âge, de prendre des décisions qui vont engager des générations entières par la suite, je ne pense pas, il y aura beaucoup de réticences. Mais de toute façon, Trump n'est pas plus jeune et donc ça va de ce côté-là. Biden, la presse fait les choux gras de ses oublis, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que Trump lui aussi montre des signes de certains problèmes, disons, entre guillemets, mentaux. Il divague quelquefois donc, dans ses discours, il se laisse aller et certainement ça montre bien que l'âge de Biden comme l'âge de Trump ne les avantage pas. Alors l'avantage de Trump, c'est bien entendu d'avoir une base enthousiaste, prêt à aller au charbon, comme on dit, même si cette base est peut-être quelque chose comme 25 à 30% de l'électorat américain. Est-ce que ce sera suffisant? C'est à voir, mais définitivement, de ce côté-là, il a une base très enthousiaste qui est prête à faire le coup de feu pour son candidat. Alors, les deux ont des fortunes diverses et ce n'est pas encore fini. Pour ce qui est le fundraising, qui est le nerf de la guerre, l'argent, Biden semble faire mieux que Trump pour l'instant. Mais c'est trop tôt pour dire qu'il a l'avantage sur le plan financier.
Denis Beaver, une analyse des deux hommes, des forces et faiblesses des deux hommes?
Je suis tout à fait d'accord. Alors, n'importe qui peut oublier un nom, peut être un peu confus. Ça arrive à tout le monde, à n'importe quel âge. Mais Trump, c'est un menteur. Il ment constamment, comme on dit, the big lie, hein, grand mensonge, exactement ce qu'il leur a fait. Selon sa femme, Trump lit chaque nuit, hein, le soir, il lit des discours d'Adolf Hitler. Et il n'a pas même langage. Hein. Et c'est tellement dangereux, tellement dangereux. J'ai voté pour lui deux fois, mais alors... pas une troisième fois, ça je t'assure.
Voilà, on va écouter Junior Bonpetit, qui est lui trumpiste, qui va certainement nous présenter les avantages de Donald Trump, Junior Bonpetit. Junior Bonpetit, qui n'est plus visiblement avec nous. Alors, Junior Bonpetit, oui, on vous entend maintenant.
Oh, yeah, ok, merci. Je disais, je m'inscris en pour à ce que mes deux prédécesseurs ont évoqué ici. D'abord, le tout dernier, ça se voit qu'il a une haine viscérale contre l'ancien président Donald Trump. Bon, ça, ça s'engage que lui. Alors, je vais descendre tous les points que l'autre a dit, l'autre autorité a dit.
Oui.
C'est que, un, sur le plan du prestige des États-Unis, aujourd'hui, l'image de marque des États-Unis est vraiment dans la rue. Vous voyez, nous avons vu ici dans les médias comment les États-Unis ont fui à l'Afghanistan comme un pays du tiers-monde. Alors, parler de la force américaine, j'en doute. Alors, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Sous Donald Trump, on ne pouvait pas... Poutine ne pouvait même pas hausser son doigt. Alors, sur le plan économique, aujourd'hui, M. Vance, Biden, sur le plan économique, ça c'est faux, archi faux. Demandez au commun des mortels, à l'américain lambda, il vous dira, le prix des biens de première nécessité ont augmenté effectivement. L'inflation aujourd'hui, on ne sait pas acheter, payer les mortgages, acheter des maisons. La vie est devenue horrible pour les gens qui sont les affaires et même pour les gens qui travaillent. Sur le plan de la sécurité intérieure, vous voyez la frontière qui se passe. Et pendant Donald Trump, les frontières étaient sécurisées. Nous avons vu, pendant Biden, il y avait plus de 10 millions d'immigrants illégaux qui sont entrés aux États-Unis. Alors, parlez-moi de force et de force de Donald Trump. Donald Trump a une base. Donald Trump, nous avons vu Donald Trump pendant ces 4 ans, comment l'économie était bonne, comment les pays étaient respectés au Conseil des Nations, comment les États-Unis gagnaient sur tout le front. Alors, nous allons avoir un débat républicain entre Donald Trump qui a un bilan pendant ses 4 ans et M. Biden qui bénéficiait des salaires flous parce qu'il n'a jamais dirigé exactement l'exécutif. Et là maintenant, il a un bilan, ce sera bilan contre bilan et un chiffre contre chiffre. Parce que là, ça ne peut pas mentir. Donc, ce sont les points, ce sont des facts qui présentent que Donald Trump a l'avantage. Et sur le plan cognitif, nous avons vu un président qui est de plus en plus faible, un président qui tombe ça et là, un président qui confond. Alors ça montre une image de faiblesse. Et l'Amérique n'a pas besoin de Joe Biden. L'Amérique a besoin d'un président fort, mentalement, physiquement, et qui a toutes les aptitudes pour diriger ce grand pays, les États-Unis. Et c'est avec Donald Trump que nous aurons ça à novembre 2024.
En tout cas, comme vous-même vous l'avez dit, ce sera bilan contre bilan. Alors, professeur Mbodge, on le sait, ici aux États-Unis, les swing states, les États clés, les États bascules, sont déterminants hein, pour faire gagner une élection. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire la différence entre les deux candidats dans ces swing states? C'est vrai qu'il y a des différences, par exemple la Géorgie, l'Arizona, la Pennsylvanie, le Nevada, il y a un peu des différences, mais qu'est-ce qui pourrait déterminer véritablement l'avance d'un ou l'autre candidat? Selon vous?
Effectivement, chaque État dans ses États clés peut avoir un déclic et qui est différent de l'autre. Mais je pense que ce qui va faire la différence, c'est si les démocrates peuvent mobiliser un peu plus les minorités et les femmes, surtout les femmes éduquées, au niveau des dernières élections, ou en tout cas proche de ça. Donc, c'est la clé partout. D'ailleurs, et pas seulement dans les États clés, mais partout dans tous les autres États, d'une part. Deuxièmement, chiffres pour chiffres, je pense que dans le débat qui va venir, on va se rendre compte que tous les agrégats sont beaucoup mieux sous Biden que sous Trump. Excepté évidemment l'inflation. Et l'inflation a été créée par Trump lorsqu'il a engagé une guerre contre la Chine en créant des tarifs à tout bout de champ et qui ont tout bouleversé et ont accru les sommes que les gens doivent payer pour des marchandises ordinaires. Bon, c'est certain que l'inflation maintenant est entrée dans une phase où le panier de la ménagère coûte beaucoup plus cher, mais les revenus des Américains ont augmenté de façon beaucoup plus importante, qui compense largement, et là ce sont les chiffres, qui compense largement ce que peut-être l'inflation a coûté. Donc si Biden peut faire passer ce discours et montrer ses chiffres à l'appui partout où il passera, je pense que il aura un avantage. L'avantage de M. Trump, c'est qu'il n'est pas le président sortant. Donc il peut faire oublier son propre bilan d'avant et se baser simplement en critiquant ici ou là ou en entier les accomplissements de Biden. Donc en quelque sorte, la bataille c'est moins qu'est-ce que Trump peut faire plutôt que qu'est-ce que Biden n'a pas fait. De ce point de vue-là, Trump a un avantage stratégique parce qu'il ne défend pas un poste alors que Biden est obligé d'attaquer et d'être sur la défensive en même temps. Trump n'a pas cet impératif, il peut aller à l'attaque à tout va.
Oui, alors Dennis Beaver, justement, l'élection s'annonce serrée, hein, on le voit dans les sondages. Certains sondages donnent Biden vainqueur, d'autres donnent Trump vainqueur, mais toujours est-il que les chiffres sont souvent très serrés. Dennis Beaver?
C'est vraiment trop tôt. Hein. C'est un peu comme déjà vu. On ne sait rien à l'heure actuelle. Et quand on regarde en Europe, les Européens ont vraiment peur de Trump. Quelqu'un qui aime Poutine, qui aime les dictateurs, qui va dire, écoute, tu peux avoir Ukraine, pas de problème, hein. Tu peux envahir n'importe quel pays, je m'en fous carrément. Troisième chose, je ne comprends pas comment quelqu'un du Congo peut aimer Trump. Lui, il disait que les pays africains étaient de la merde. C'est ce qu'il disait. Et je comprends pas du tout comment quelqu'un peut soutenir un mec aussi fou que ça.
Ouais, bon, là, on va écouter justement Junior Bonpetit, fondateur du mouvement Congolese for Trump. Alors, ce ne sera pas pour répondre à Dennis Beaver, mais il y a une question qui taraude l'esprit de beaucoup de personnes. On a vu ce qui s'est passé lorsque Donald Trump a été déclaré perdant. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, s'il est battu, il va reconnaître sa défaite? Est-ce qu'on pourrait encore assister aux situations de crise comme l'assaut du Capitole en 2021?
Merci pour la question. Je sais que c'est passé à l'assaut du Capitole. C'est quelque chose de monté, hein, de toutes pièces. Hein. Et maintenant, avec le temps, avec un peu de recul, les vidéos commencent à sortir et tout ça. On commence à voir que c'est quelque chose de préparé, prémédité. Alors, Donald Trump n'a jamais envoyé le genre faire l'assaut du Capitole puisqu'il avait dit rentrer paisiblement, peacefully. Donc, je ne pense pas que maintenant qu'après la COVID et tout ça, les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup d'États républicains en majorité demandent le vote ID et puis à supprimer ou limiter vraiment les votes par mail pour essayer un peu de donner beaucoup plus de confiance aux élections. Je pense pas, cette histoire n'a pas été une bonne image pour l'Amérique et surtout pas pour la démocratie. Donc cette fois-ci, les choses, nous avons appris ce qui s'est passé, la stratégie malsaine des démocrates, certains démocrates qui ont fait propos aux élections, nous allons s'y prendre tôt et pour contregarer tout ça, pour donner plus de crédit, plus de confiance aux élections de novembre.
Oui, professeur Mbodje, pour terminer, comment est-ce que vous voyez l'issue du scrutin? Vous pensez que cette fois-ci, ce sera plus paisible, plus pacifique?
Oui, parce que je pense que Trump, étant donné que certainement il ne pourra pas se présenter encore, ou bien encore que le personnage est plein de mystères et comme l'a dit mon collègue de la Cour Ouest, il y aura toujours des surprises. Il est certain que s'il est battu plus que cela ne s'est fait il y a 4 ans, je pense que beaucoup de républicains vont lui tourner le dos de façon définitive et direct, et je ne pense même pas qu'il puisse avoir une influence un tout petit peu sur le devenir du Parti républicain s'il perd. C'est un peu la situation des années 50 avec lorsque le sénateur McCarthy avait fait tellement de bruit qu'on pensait qu'il pouvait faire les élections, qu'il pouvait faire élire le général McCarthy, mais tout ça s'est dégonflé comme un ballon de de Baudruche, un tout petit peu. Et je pense que si Trump perd, c'est ce qui va se passer. C'est mon avis personnel.
Merci beaucoup. On va suivre tout cela sur VOA Afrique, la campagne électorale, l'élection en novembre. Ce sera évidemment sur VOA Afrique avec nos différents correspondants et bien sûr tous nos invités, y compris donc ceux qui étaient là aujourd'hui, c'est-à-dire Junior Bonpetti, fondateur du mouvement Congolese for Trump, Denis Biberabouka et Mohamed Bodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. C'est la fin de l'Amérique et vous, à la présentation Mohamedou Oumpa. Merci à tous d'avoir suivi. Cette émission est en ligne sur notre site web voafrique.com. Au revoir.